Dimanche dernier, nous avons, enfin, le week-end dernier plus exactement, nous avons célébré la Pâque avec le vendredi soir la commémoration de la mort de Jésus, puis le dimanche la célébration de la résurrection de Jésus. Et j'aimerais déjà remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces temps forts. Uriel et moi avons beaucoup apprécié ces différents moments, l'investissement des uns et des autres, un culte particulièrement riche, particulièrement édifiant. Il y a ces temps dans l'année où nous aimerions que ces moments un peu spéciaux se prolongent. Vendredi soir, je serais bien resté encore longtemps pour écouter les textes nous rappelant ce moment dramatique de la mort de Jésus et de ce temps un peu d'intimité de Jésus avec ses disciples. Puis le dimanche, un culte avec une chorale super, hein, s'il fallait employer un mot que les jeunes, depuis longtemps, n'emploient plus. Et donc, on aimerait vivre ces cultes pratiquement chaque dimanche. Et de fabuleuses surprises de voir la chorale tout à coup nous proposer un chant. Puis ces dimanches un peu spéciaux, il y a du monde! On est un peu moins nombreux ce matin. Hein? Vous demandez où je vais en venir. Hein? Ben, je me mets à la place des disciples. Comme nous, ils ont vécu quelque chose de particulier. Quelque chose d'impensable, d'inimaginable. Ils ont vécu une forme d'ascenseur émotionnel. D'abord, la désespérance. Ils se sont retrouvés au fond des abîmes. Toute leur espérance s'effondrait. Une nuit sombre. Épaisse. Et puis tout à coup, ce qui était impensable, inimaginable, que je disais, est arrivé, la résurrection de Jésus. Vous imaginez un peu cet ascenseur émotionnel. Ah, il faut avoir le cœur bien accroché. Jésus ressuscité. Et nous l'avons dit ensemble, hein, il est vraiment ressuscité. Voilà une semaine après. Dans quel état sommes-nous? Quand les disciples ont vécu, en fait, cette après-résurrection? Ça m'a titillé longtemps. Est-ce qu'ils sont restés perchés, comme on dit? Et ce qui est assez intéressant en lisant les évangiles, c'est que il montre justement différentes facettes de cette après-résurrection. Et l'une ou l'autre de ces facettes, me semble-t-il en tout cas, nous rejoint dans notre interrogation, rejoint en tout cas dans mon interrogation. J'espère que vous la partagez, sinon il va falloir que je fasse encore beaucoup plus court que ce que je fais d'habitude. Et je trouve ça intéressant. C'est l'évangile de Jean qui va nous introduire dans cette après-Pâques. Pourrait dire, et la résurrection, j'avais envie d'intituler mon sermon, La résurrection et après. Et après. Alors je trouvais que c'était un petit peu comment dire, un peu brutal comme titre. J'en ai donc choisi un autre. Je vous invite donc, après cette introduction, où j'ai fait un petit teasing, là, vous voyez, chapitre 21 de l'Évangile de Jean. Chapitre 21 de l'Évangile de Jean. Quand, au début, qu'on m'expliquait, en fait, pourquoi quatre évangiles et pourquoi quatre récits différents, la réponse qu'on me le donnait, c'est qu'en fait, chaque évangéliste a donné, en fait, l'histoire de Jésus en fonction de sa sensibilité, la manière dont il l'a vue. Je trouvais que c'était pas tout à fait juste, parce que ça laissait, en fait, une grande part à la subjectivité des évangélistes. Or, je crois que les évangiles et les évangélistes ne sont pas du tout subjectifs quand ils nous racontent l'histoire de Jésus. Ils ont un message à nous faire passer, et chacun a un message à faire passer, adressé à son auditoire. Matthieu, allez, on fait une petite interrogation. Matthieu. Pardon ? Le royaume. Prendre position. Cinq discours de Matthieu. Et au bout de chacun des discours, une prise de position. Amener les personnes à être disciples. Marc. Marc. Récit condensé. Des phrases très courtes. La puissance de Jésus-Christ. Luc. Petite révision là. Hein. Luc, c'est le seul à ne pas être apôtre. Il est le seul païen parmi les évangélistes. Son but ? Rappeler que l'évangile est pour tous. Il va mettre en situation des personnages dont la rencontre avec Jésus était plus qu'improbable. Jean. Vous y voilà, Jean. Et c'est l'appendice, ce chapitre 21. Je reviendrai, je l'indiquerai tout à l'heure. Je vous écris ces choses afin que vous croyiez. Un message bien pensé, réfléchi, absolument pas subjectif, avec un objectif donc précis. Disons donc que ce chapitre, ces 14 premiers versets du chapitre 21 de Jean. C'est ça qui sert de... Bon, je l'ai là. Voilà. On peut y aller ? Tu peux afficher le texte ? Il y est ? Pas de technicien ici. On va se débrouiller sans. Quelque temps après, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords du lac de Tibériade. Et voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher ». Nous aussi, nous y allons avec toi, dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever, et voici Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. Hé, les enfants ! Alors moi, je traduis comme ça. Hé, les gars ! Avez-vous pris du poisson ? Rien, répondirent-ils. « Jetez les filets du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc les filets et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur !» En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit, se jeta à l'eau. Et les autres disciples regagnèrent la rive, avec le bateau, en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à une centaine de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons et venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons, et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez, Mangez, leur dit Jésus. Aucun disciple n'osa lui demander qui es-tu. Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua, puis il fit de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Les apôtres, on peut passer l'autre diapo. Je n'ai pas de retour. Encore une fois, voilà, ce sont les quatre points, mais je les ai pas sous mes yeux. Mais vous les avez, les quatre points que j'aimerais aborder avec vous ce matin. Tout d'abord, donc, les apôtres sont témoins de la résurrection de notre Seigneur. Ils ont vécu, comme je le disais tout à l'heure, un événement magnifique, inoubliable, historique. Qu'en est-il de nous ? Le Christ ressuscité appartient-il à l'histoire ? Appartient-il à dimanche dernier ? Ou a-t-il quelque chose à voir avec notre vie d'aujourd'hui ? Avec notre quotidien ? Avec votre quotidien, avec mon quotidien. Et l'évangile de Jean se caractérise par le fait qu'il porte une sorte d'appendice de supplément. Jusqu'au chapitre 20, Jean nous rapporte tous les éléments fondateurs pour la foi. La vie de Jésus, sa mort, la découverte du tombeau vide, les apparitions à Marie, puis ensuite aux disciples. Et il faut du temps aux disciples pour accéder à la foi, pour accéder à l'événement si extraordinaire. Mais Jésus les conduit à ce point où ils peuvent dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est là où Jésus veut emmener ses disciples. Et l'apôtre, ayant tout dit de ce qui était fondamental, va conclure le rappel et le but de son évangile. La diapo 4, toutes ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et pour qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle, la vie en son nom. Et il semblerait qu'il n'y ait plus rien à ajouter, mais voilà, il y a une sorte d'appendice à la résurrection, une vie après la résurrection, une vie qui continue, une vie qui est appelée à se poursuivre. Et nous sommes, nous aussi, dans cet après la résurrection. Et cet après, pour les apôtres, n'est pas l'envoi mission. C'est un peu ce que l'on aurait fait. Hein. Résurrection, mission. Vous êtes avec moi, là ? On ne peut plus, là. On est, je ne sais pas, moi, au centre-ville de Thonon, en train d'annoncer la résurrection, en train d'attraper chacun en disant « Mais Jésus est vivant !» Un peu comme on a fait pour moi quand je suis arrivé dimanche matin. Tu sais, Nordine, la nouvelle ? Alors moi, j'étais là, non, je sais pas. Jésus est ressuscité. On a l'air bête hein, quand on ouvre Dieu ça. Vous n'avez pas fait ça, hein ? Si, hein ? Vous avez fait ça. Et puis alors, ensuite, lundi, réunion de prière, mardi, étude biblique, mercredi, réunion de prière, jeudi, étude biblique. Un peu quand même. Enfin, à moins que je sois un peu spécial. Les disciples, qu'est-ce qu'ils font ? Premièrement, ils quittent Jérusalem et ils retournent chez eux. On va se passer peut-être du diaporama parce que j'ai l'impression que ça... Tu arrives à passer à la suivante ou pas ? Voilà. Ils retournent chez eux. Et pendant les événements de la croix, ils étaient à Jérusalem. Mais Jérusalem, ce n'était pas chez eux. Ils n'étaient pas de Jérusalem, les disciples. Ils sont complètement étrangers à cette ville. La maison dans laquelle ils se trouvent est une maison qui leur a été prêtée. Ils vivent en reclus, vous vous souvenez, ils ont fermé toutes les portes, à l'écart, après tout ce qui s'est passé. Là, maintenant, ils retournent chez eux. Ils ont besoin de respirer, en quelque sorte, l'air de la maison, de revenir à des pratiques habituelles. Et c'est Pierre qui entraîne les amis après la résurrection. Ça me fait sourire, hein, pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'il va à la pêche? Vous auriez eu cette idée, vous? Quand c'est l'ouverture de la pêche, c'est le mois de mars, je crois pas, ici. Voilà. Résurrection, événement historique qui change la face du monde, et puis il va à la pêche. C'est comme si vous, tout à coup, après la résurrection, bon, c'est sympa, j'allais continuer ma série sur Netflix, Game of Thrones. Les disciples ont besoin de quelque chose, de retourner à leur quotidien, de retrouver les simples gestes d'homme. Les événements de la Pâque qu'ils ont vécu ont été tour à tour, comme je le disais tout à l'heure, terribles et en même temps magnifiques. Comment vivre quelque chose de plus fort que ce qu'ils ont vécu? Ils ont d'abord été plongés dans les abîmes de désespérance, parce que Jésus est enlevé, toute l'espérance envolée, détruite. Pierre et ses compagnons ont besoin de retrouver leur geste de pêcheur dans leur cadre de vie, dans l'atmosphère de leur village, d'une nuit passée sur le lac. Et tout ça pour se retrouver en quelque sorte eux-mêmes. Et cela nous rappelle quelque chose d'important. Le rappel de la vie normale, le besoin de la vie normale, la valeur de la vie normale. Et il me semble que c'est ce que Jean est en train de nous dire. Ces régularités, nous en avons besoin. On a l'impression quelquefois que la vie régulière, la vie normale, manque de relief. En vacances, je mets au repos ma femme. Nous n'avons pas été élevés dans la culture du Masterchef. Donc c'est moi qui fais la cuisine. Mais je me dis, quelle galère! Quelle galère! Chaque jour, il faut penser au repas du lendemain. Ça ne m'était jamais venu à l'idée, hein. Et ceux qui font ces gestes routiniers se disent oh, on a besoin d'autre chose. Alors c'était une délivrance, je dis rarement. Enfin, allez, on va manger au restaurant. Mais le restaurant, c'est pas la vie normale. C'est pas la vie normale. Nous pensons souvent que c'est lorsqu'il y a de l'extraordinaire qu'il y a enfin la vie. Que c'est là qu'est la vie, vraiment, dans l'extraordinaire. Et ceci nous montre que même après la résurrection de Jésus, l'homme ne peut pas vivre d'extraordinaire seulement. Il faut parfois se reprendre, se retrouver, et le quotidien offre ses possibilités. Et oui. Après ce dimanche qui nous a rappelé le triomphe de la mort et de la vie sur la mort, il est bon de se souvenir que la vie que Dieu nous donne, c'est la vie des gestes quotidiens. de ces gestes simples où nous nous retrouvons, où nous nous apaisons, où nous nous fatiguons parfois. C'est ces gestes des institutrices où il faut apprendre la conjugaison, les accords avec le verbe être et le verbe avoir. Et puis tout le reste, quoi. Rabâcher les mêmes choses avec des élèves si lentes à apprendre, un peu comme les disciples. Oui, c'est ces journées où il faut penser à la cuisine du quotidien. Eh oui. Mais nous avons besoin de ça. C'est parfois cela qui forme notre quotidien. J'ai souvent pensé à Abraham. Alors nous, Abraham, dans notre imaginaire, pas collectif mais individuel, on a l'impression que la vie d'Abraham, c'était une succession d'épisodes fantastiques. Vous avez été déjà voir un berger. Alors oui, il y a eu des mouvements, mais il y a eu des journées longues, interminables, où il fallait tuer le temps. La Bible offre ce désavantage, c'est un peu de contracter l'histoire ou de raplatir l'histoire. Mais si on regarde bien, toute la vie d'Abraham a été une succession de marches où il ne s'est absolument rien, mais rien passé. Où il a passé son temps à compter tout simplement son cheptel. Et c'est ça la vie d'Abraham. Ponctué à certains moments, effectivement, de choses extraordinaires. Retour chez eux pour retrouver leur quotidien. Et puis Pierre dit « Je vais pêcher ». Et lorsque ses compagnons retrouvent leur filet, ils n'en ont pas perdu le champ de la résurrection. Ils n'en ont pas perdu de cette joie dans leur cœur de savoir que Jésus est vivant. Cette réalité habite leur cœur lorsqu'ils jettent le filet. Lorsqu'ils sont sur leur barque, tout cela les accompagne. Il me semble-t-il, c'est bon d'aborder les choses de la vie avec cette flamme dans le cœur. Ne dévalorisons jamais le quotidien par rapport à l'extraordinaire de la foi, essayons de conjuguer les choses en accordant une pleine valeur à chacun. Mais cette parole de Pierre qui se dirige vers le lac pour la pêche est une parole d'initiative. Pas une initiative forcément que nous aurions prise, mais c'est une initiative quand même. Jésus est vivant, mais il n'est plus là comme il l'était auparavant lorsqu'il était présent physiquement avec ses disciples chaque jour pour les conduire. Mais la question est, que faire maintenant que Jésus est ressuscité? Faut-il rester sur place jusqu'à ce que Jésus apparaisse de nouveau? Faut-il rester inactif jusqu'à ce que Jésus se manifeste? En tout cas, moi, c'est ce genre de questions que je me serais posée. Et c'est dans le cadre de cette initiative choisie par Pierre, une initiative toute bête, où il retrouve en fait ses gestes quotidiens, que Jésus va se manifester encore une fois. Et je trouve extraordinairement encourageant que Jésus se manifeste là, maintenant. Alors que les disciples étaient immobiles, en quelque sorte, dans l'attente. On aurait pu penser que la résurrection de Christ, c'est juste attendre qu'il se manifeste. Mais Jésus apparaît au cœur de l'initiative humaine. Il ne boude pas les disciples parce qu'ils ont agi. Il ne les laisse pas tomber parce qu'ils sont retournés à la pêche plutôt que de s'occuper simplement des choses d'en haut. Et la vie, la lumière de la résurrection implique la possibilité de choix et d'initiative, comme l'a fait Pierre. J'aime aussi cet appendice de l'évangile de Jean pour cela. Le retour à la pêche de Pierre n'est pas un abandon de la foi, comme si les disciples n'étaient destinés qu'à prier et attendre que Jésus vienne vers eux. Il n'y a rien de tout cela dans l'Évangile. La vie à la lumière de la résurrection implique une possibilité d'action, une possibilité de choix, une possibilité d'initiative. Elle implique aussi, car le texte nous le rapporte, les aléas de la vie. Car cette nuit-là, ils sont allés à la pêche. Résultat de l'initiative de Pierre, zéro. Nada. Nossi. Walou. Rien. Et alors là, j'entends les esprits. T'avais bien dit, Pierre. Pourquoi tu paraissais prier ? Hein ? Pourquoi tu n'as pas ressassé les paroles du Christ dans l'Ancien Testament ? Qu'est-ce qui t'a pris de retourner à le péché ? Tu vois bien ? Rien. Ils sont allés pêcher et ils n'ont rien pris. Ça n'est jamais arrivé, ça, de prendre des initiatives. Chou blanc. Et là, on se pose des questions. Est-ce que vraiment le Seigneur voulait cette initiative ? Est-ce que j'aurais pas dû plus prier ? Est-ce que j'aurais pas dû plus lire ma Bible ? Est-ce que... Voilà. Plutôt que de faire des choses tellement terre à terre. Et c'est là où Jean, me semble-t-il, est original, dans sa manière de retracer l'histoire des disciples et de s'arrêter sur cet événement. Ces échecs font partie de la réalité de la vie. Et certaines choses demandent persévérance, fidélité et des recommencements. Et la résurrection de Christ manifeste toute la puissance de Christ, mais cette puissance ne veut pas dire que tout va réussir pour les chrétiens et que immédiatement, comme par enchantement, on va avoir des résultats immédiats. Il ne faudrait pas, surtout pas s'enfermer dans de telles perspectives ou douter de la réalité de notre foi si tout ne se passe pas merveilleusement bien. Ils prennent cette initiative et cette initiative rencontre des difficultés. Et il y a cette voix, tu arrives à trouver la diapo, cette parole de Jésus. Si vous relisez le texte, vous verrez qu'il y a six paroles de Jésus dans le texte, mais qui sont vraiment intéressantes. Et les enfants, ça c'est ce que dit Jésus, hein. C'est là que notre texte devient beau. Les disciples ont pris l'initiative, ils ont pêché toute la nuit, zéro revenu, hein, zéro. Et le matin, étant venu, Jésus se tint sur le rivage. C'est pas beau. Pas loin de nos échecs. Il n'est pas là par hasard. Il a choisi, Jésus, de se tenir là. Il a choisi de venir là, sur les rivages, pas loin des disciples, alors qu'ils sont retournés à la pêche et qu'ils ont fait zéro. Nous avons ici, me semble-t-il, ce que signifie la vie dans la lumière de la résurrection. Quel contraste, hein ? Personne n'oserait dire cela. C'est de savoir que le Christ vivant vient se placer sur les rivages de notre quotidien. Il vient se placer sur le rivage de notre quotidien. Celui qui vient aborder les rivages de notre vie quotidienne, il vient nous apporter ses bienfaits, les ressources et sa présence là où nous sommes. Le matin venu, Jésus se tint sur le rivage. L'apparition du ressuscité n'est pas une apparition glorieuse. Ce n'est pas le ressuscité qui marche sur l'eau dans une manifestation de sa personne, glorieuse de sa personne. Non, La personne qui est là, le ressuscité, et sur le rivage, c'est quelqu'un de présent et quelqu'un qui s'intéresse à nous. Qui s'intéresse à nous. À notre personne. À leur personne. Et il les interpelle. Et les enfants, et les gars. Mot qui dit une certaine connivence, une proximité avec cette question. N'avez-vous rien à manger? N'avez-vous rien à manger? Une forme négative qui montre que Jésus sait qu'ils sont dans difficulté. Et c'est là aussi que Jésus, le ressuscité, va les rejoindre dans leur difficulté. Et on voit que si Jésus est là, c'est pour eux. Il est proche, très proche de leur quotidien. On relie parfois la proximité de Jésus à son humiliation. Jésus s'est fait proche de nous en devenant serviteur, en s'abaissant jusqu'à nous. Mais ce dont on s'aperçoit ici, c'est que Jésus, le ressuscité, continue d'agir ainsi. Ce n'est pas parce qu'il est ressuscité qu'il cesse de s'intéresser aux siens et d'entrer dans leurs préoccupations, aussi banales soient-elles, dans leurs tentatives. Et on découvre ici toute la continuité de l'amour vrai. Le Christ triomphant ne devient pas un abuvable « M'as-tu vu ? Regardez-moi, je suis ressuscité !» Non. Mais les gars, n'avez-vous rien à manger ? Il vient dans ce que vivent les siens. Dans ce que vivent les siens et qui préfère cela plutôt que se montrer lui. Et j'aimerais que nous gardions au fond du cœur cette belle parole. Je ne sais pas ce que sont les rivages de votre vie ce matin. C'est la diapo 7. Mais Jésus le vivant est celui qui veut vous rejoindre, nous rejoindre, sur les rivages de votre vie ce matin. Je sais que certains passent par des difficultés terribles. Ne vous sentez pas abandonné par le Christ. Il se tient là, sur le rivage de votre vie. Il veut être là où vous êtes. Il veut être là où nous sommes, dans ces nuits sans sommeil, où on cherche le sommeil en vain, tellement taraudé par les soucis. Vous vous débattez peut-être comme les disciples, là où vous êtes, au cœur de vos projets, au cœur de vos tentatives. Jésus est vivant, il veut être là, sur le rivage de notre vie. Il veut donner priorité à son amour. C'est pourquoi il se place là. Qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'il est là? Diapo 8. Jetez les filets. Nous voyons que Jésus, après avoir questionné ses disciples, leur propose une initiative. Il leur propose une parole. Il leur propose une action. Il leur dit « Jetez vos filets !» Bon, entre un charpentier et un pêcheur, il y a... On va lui dire « Pas tu te mêles, je suis pêcheur, ça fait 30 ans d'expérience, c'est pas toi qui vas nous apprendre à pêcher, où faut jeter nos filets ?» Pourrait ça traduire autrement. Si tu étais à ma place, tu verrais ce que ça veut dire de souffrir, de ne pas dormir. Il sait tout. Que font les disciples? Ils font exactement ce que Jésus leur demande de faire. Ils le font parce qu'il arrive parfois que de la rive, on puisse discerner dans l'eau les ombres que l'on ne peut pas voir lorsqu'on est sur place. Il arrive parfois qu'un autre angle de vue nous permet de discerner ce que nous, dans le feu de l'action, emmêlés dans nos difficultés, nous n'arrivons pas à voir. Et cette parole qui s'adresse à eux, il s'agira de l'écouter. Il s'agira de lui faire confiance. Il s'agira de la mettre en œuvre. Je dirais que le ressuscité qui vient sur le rivage de nos vies demande une confiance dans la parole qu'il nous adresse. Nous avons cette parole. Nous avons les paroles du Christ ressuscité. Nous savons que c'est la sienne. C'est lui qui nous a dit « Je suis tous les jours avec vous ». C'est lui qui nous a dit, diapo 9, « Je suis le bon berger. Je veux vous accompagner ». C'est lui qui dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie ». Nous avons cette promesse. Le Christ est venu vers nous et nous demande de faire confiance en ses promesses. Nous avons ses commandements. Ne vous inquiétez de rien, car votre Père sait ce dont vous avez besoin. Ayez confiance en Dieu, ayez confiance en moi. Demeurez unis en moi comme le cèpe l'est au serment. Au sarment, nous avons ses commandements. Le Christ ressuscité nous invite à donner sens à ses commandements. Il y a aussi ses appels. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Il ne s'adresse pas à des inconvertis, il ne s'adresse pas à des païens, il s'adresse à des chrétiens qui, peut-être dans leurs difficultés, ont tenu à l'écart le Seigneur. Qui, dans leur souffrance, se sont dit « Mieux vaut être sans lui qu'avec lui. » Le Christ revient vers nous et frappe. « Je veux partager ta vie, tes souffrances, tes incompréhensions, tes doutes. Laisse-moi m'asseoir à ta table. Je vais te nourrir, te donner ce dont tu as besoin. Et pas seulement le dimanche de Pâques, mais face à nos situations de la vie quotidienne, en prenant au mot ces paroles. Jésus va renouveler son appel à jeter son filet. Il renouvelle son appel et ses promesses. Et c'est le sens de cette grande pêche miraculeuse. 153 gros poissons qu'il prête. C'est intéressant ça, hein? 153 gros poissons. Alors, quand on ramène, des... hein 153. Alors, bien sûr, hein, je suis un peu curieux, donc j'ai été voir ce que signifie 153. Il semblerait que ce soit le nombre de sortes de poissons connus à l'époque. Connus à l'époque. À vérifier, mais c'est ce que j'aime. Mais s'il me semble qu'il y a une leçon encore plus, qui va encore plus loin, qui nous dit en fait, que Jésus nous invite constamment à nous encourager et à montrer l'universalité du salut. L'universalité du salut. Le salut est pour tous. Quelque temps plus tard, Jésus dira à ses disciples, « Je vous ferai pécheurs d'hommes. » Il les prépare déjà à la mission qui va être la leur. Mais souvenons-nous, et c'est ça qui me semble important de nous rappeler, que le ressuscité là sur le rivage de notre engagement aussi pour lui, comme le vivant, source de vie. Et puis je terminerai par cette dernière parole de Jésus, c'est la diapo 11. Venez manger. Je trouve ça, mais alors, extraordinaire. Jésus a préparé un barbecue pour ses disciples. Ils ont ressuscité, il n'y avait pas d'autre chose à faire que préparer un barbecue pour ses disciples. Ils découvrent Jésus après leur longue nuit d'effort. Ils découvrent que Jésus a tout préparé pour eux, pour leur donner à manger. Lorsqu'ils descendent à terre, ils voient des braises avec du pain et leur demandent leur poisson. C'est lui qui les a nourris. Ils avaient pris zéro poisson. Jésus va leur procurer la nourriture qu'il va préparer pour eux. Il vient vers nous, mes frères et sœurs, pour nous restaurer. Pour nous restaurer. Non seulement il procure la nourriture, mais il prépare les plats pour nous. Il vient le ressusciter pour nous restaurer. Et au travers de ça, Jésus dit à ses disciples qu'ils pourront toujours compter sur lui pour les forces nécessaires. Ils pourront toujours compter sur lui pour les grâces de chaque jour. Ils pourront compter sur lui pour le renouvellement dont ils ont si souvent besoin. Et nous voyons ici le ressuscité qui se met en quatre pour ses disciples. Le Seigneur vivant reste et restera celui qui prend soin de nous et qui le fait avec cœur. Il est là, prêt à nous l'accorder en abondance. Avons-nous besoin de force pour résister à la tentation, au découragement, aux difficultés? Le Seigneur est là, prêt à répondre selon sa richesse. Craignons-nous de ne pas arriver à vivre la vie que Dieu nous demande de vivre? Ayons confiance. Le Seigneur est là, sur la rive, pour nous donner les ressources dont nous avons besoin. Il sera là aussi comme les disciples. Nous sommes un peu en panne lorsque nous sommes un peu en panne. Panne sèche. Le Seigneur est attentif. Il sera là, vigilant, pour faire le plein de notre vie. À diapo 12, il sera toujours là sur les rives de notre vie et nous donner le pain pour continuer la route. Il sera toujours là sur les rives de notre vie pour nous offrir le bois qui réchauffera notre cœur, pour rallumer le feu qui nous réchauffera. Il sera toujours là sur les bords de notre rive pour nous offrir la nourriture qui nous affermira. Peut-être avons-nous besoin pour notre part de voir toutes les fois où déjà il l'a fait. Il l'a fait. Reconnaissons-nous toujours les bienfaits qu'il nous donne? Prêtons-nous toujours attention à ces ressources qui nous permettent de continuer la route qu'il nous donne? Ayons confiance. Il est vivant. Il est le vivant qui a choisi de l'être pour nous donner confiance et ressources pour continuer la marche. Nous pouvons donc marcher avec lui dans la vie de tous les jours, avec sa force, sa présence sur les routes de notre vie. Car notre Seigneur est ressuscité. Diapo 13, il est vraiment ressuscité. Bon dimanche de Pâques. Je vous invite au recueillement. Que pourrions-nous dire, Seigneur, devant cet amour que tu as pour nous, qui se manifeste par une préoccupation intense de notre vie quotidienne, dans tous ses aspects les plus essentiels comme les plus banals. Tu es là, présent, au cœur de notre vie, au cœur de notre quotidien. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais négliger cette présence, alors que nos vies semblent parfois routinières, répétitives. Tu es le ressuscité qui se tient justement au milieu de ces moments-là qui forment la trame de notre vie. Que la lumière de ta résurrection remplisse justement ces moments. Ces moments difficiles, ces moments joyeux, ces moments qui semblent parfois des impasses. Seigneur, illumine de ta présence ces moments. Que nous les percevions, que nous soyons attentifs à cette présence. Seigneur, merci de prendre soin de nous, de nous nourrir, de nous donner jour après jour le pain dont nous avons besoin pour la route du moment. Merci de renouveler à chaque instant tes bontés à notre égard. Que notre vie, Seigneur, dans sa totalité, soit toujours la vie de celui que tu as permis de goûter à ta résurrection. En Jésus-Christ. Amen.